On continue notre belle petite série sur le chrétien et ses responsabilités. Pourquoi que je ramène ça? Parce qu'on a la mémoire courte. Le Seigneur, l'apôtre Pierre, il dit, je ne cesse de vous répéter ces choses, car cela est salutaire pour vous. Pierre, il a écrit ça textuellement, cette phrase-là, que les chrétiens ont besoin de se faire répéter. Quand Jésus a dit à ses disciples, avant de quitter ce monde, une fois qu'il était ressuscité, il a dit, « Faites de toutes les nations des disciples. » Une fois qu'ils sont disciples, il dit, « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Fait que si on vécu, je dirais, mettons, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard que ce moment-là, pensez-vous qu'ils n'ont pas répété une couple de fois ce qu'ils ont prêché? On passe notre temps à être obligé de répéter. Puis pourquoi? Parce que c'est salutaire. Ça a leur rapport pas juste pour dire qu'on demeure dans la foi, mais aussi pour qu'on se ramasse des fruits pour la vie éternelle. Des fois, notre chair, elle, comme que on voit dans la parabole que Jésus a enseigné, que le diable vient puis enlève aussitôt ce qui avait été semé. Quand il y a des oiseaux qui sont là, les oiseaux dans le monde invisible, c'est des oiseaux de l'ennemi qui enlèvent ce qui a été semé. Puis je crois que les oiseaux travaillent aussi dans les chrétiens. On oublie. Puis là, Jacques nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux, mais se mettant à l'œuvre, c'est là qu'on va être heureux dans notre activité, surtout quand on va rentrer l'autre bord. On va avoir une joie complète, parfaite. On continue notre étude sur chercher à connaître, comprendre nos responsabilités, parce que Dieu nous a tout donné. Il a tout accompli pour qu'on puisse être sauvé. Il nous a donné plein de promesses. Son Saint-Esprit nous aide. On a sa parole dans les mains. On a des réunions pour puiser, pour recevoir des enseignements. Il nous bénit bord en bord sur tous les sujets. Ici, en tout cas au Québec, là, faut pas se plaindre. On est super bénis. Puis là, au point des fois, même pas encore obligé d'aller à l'église. Mais c'est une bénédiction d'aller rencontrer Dieu dans son temple. Puis de le louer, l'adorer, de le prier. Puis apprendre ce que Dieu veut qu'on mette en pratique. Des fois, on le savait, mais c'est de toujours se rappeler ces choses-là. Aujourd'hui, on va regarder ensemble que le Seigneur s'attend à ce que chacun de ses enfants devienne des pourvoyeurs à l'œuvre de Dieu. Chercher à être un pourvoyeur à l'œuvre de Dieu. Un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui pourvoit. Ouais, mais Dieu a dit qu'il pourvoirait. C'est vrai. C'est promis. Dieu pourvoit. Comment? Souvent, il a donné à quelqu'un pour donner à l'autre. Il pourvoit, mais à travers un autre. Puis Dieu a permis qu'il y ait des gens qui soient en plus d'abondance que d'autres pour pourvoir à celui qui en a moins. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. Puis on va voir des versets dans ce sens-là. Yeshua, notre Seigneur, il a parlé de ceux qui sont riches pour eux-mêmes. Puis on l'a chanté tantôt. Aurais-je amassé des richesses pour faire plaisir à mon corps? Être riche pour moi-même. Jésus nous a parlé qu'il y en a qui étaient riches pour eux-mêmes, puis là, à cause de ça, ils sont pauvres devant Dieu. Dans Luc 12, verset 21. Jésus a dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, puis qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce possible qu'il y aura des chrétiens qui amassent des trésors pour eux-mêmes, puis ne sont pas riches pour Dieu? Ils sont pas riches devant Dieu. Là, je vous demande pas de regarder les autres, savoir, lui, il est-tu riche, lui, il n'est pas riche. Il faut commencer à se regarder soi-même. Quand les apôtres, Jésus leur a dit, « L'un de vous me livrera », ce qu'ils ont répondu, les apôtres, « Est-ce moi, Seigneur? » Il faut se regarder, il faut s'examiner. Il faut pas regarder, si lui, nous autres, on est plus porté à regarder les autres, mais il faut se regarder. « Est-ce moi, Seigneur, qui ramasse des richesses pour moi puis que je suis pas riche pour le royaume? » Parce que la richesse, il y en a une qui existe, une richesse pour le royaume, où ce qu'on se ramasse des... des bénédictions, on se ramasse des biens pour, à venir où il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille qui va détruire, puis il n'y a pas de voleurs qui vont passer et dérober dans les richesses célestes. Lui, le Seigneur, quand il a dit ça, qu'il y en a qui amassent des trésors pour lui-même puis qui n'est pas riche pour Dieu, c'est dans une parabole pour nous avertir de ne pas être avare quand on est chrétien. Parce qu'il ne parle pas aux gens du monde, là, il parle à des chrétiens. Parce que les gens du monde sont complètement pas sauvés. On parle pas du monde riche pour Dieu. Pour être riche pour Dieu, il faut que tu sois premièrement sauvé, puis après ça, tu te ramasses des richesses. Puis là, Jésus parlait à ses disciples dans Luc 12, 15, il dit, puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Savez-vous c'est quoi être avare? Il y en a-tu qui ont vu le film de Séraphin, la série Séraphin? « Mon or! » Puis là, il comptait son or, puis il regardait comment ce qu'il en avait pour lui. Puis, quand il arrivait le temps de payer quelque chose, là, c'était dans le temps que le monde n'avait pas d'argent, il venait payer, mettons, 50 cents, il disait, « T'as-tu du change pour 100 piastres? » Là, l'autre, il disait, « Ben voyons, tu sais, c'est Séraphin qu'on n'a pas d'argent, nous autres. » Mais il dit, « Je paierai une autre fois. » Il payait pas. Il refusait de payer. Il refusait d'aider. Tu sais, un avare ne pense qu'à lui. Puis il dit, « Gardez-vous de toute avarice. » Il parle aux chrétiens. Puis là, il dit, « Car la vie d'un homme... » La vie éternelle, ça dépend pas de ses biens. C'est pas à cause qu'une personne est riche à la terre qu'elle va être riche dans les cieux. Tu peux être extrêmement riche à la terre. Tu peux même être le plus riche de la terre. Puis même pas rentrer dans la vie éternelle. Ou bien, si tu es sauvé, de même pas avoir rien l'autre bord. Être comme sur le bien-être dans le ciel. C'est pas des faces, qu'est-ce que je vous dis là. Il va y avoir des différences de richesse l'autre bord pour les chrétiens. Il y en a qui vont avoir des petits trésors, puis il y en a qui vont avoir des gros trésors. Il y en a qui, c'est même un verset qui dit qu'il y en a qui vont passer comme au travers du feu. Ils vont juste sauver leur vie, puis il n'y aura aucune récompense. Comme si ta maison aurait passé au feu, puis tous tes biens sont brûlés, puis t'as zéro récompense à collecter l'autre bord. Il raconte une histoire d'une personne dans ce passage-là, quand il nous dit de se garder avec soin de toute avarice quand tu es chrétien. Là, il raconte une histoire que beaucoup de gens y ont pratiqué cela dans le monde. Des gens dans le monde, mais des chrétiens dans le monde. Dans Luc 12, 16, on continue ce texte-là pour voir qu'est-ce que Jésus a enseigné. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Puis il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car j'ai pas de place pour serrer toute ma récolte? Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, je vais en bâtir des encours plus grands, puis là j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis là je dirai à mon âme, t'as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Ça démontre quelqu'un qui pense qu'à lui. Ça nous dit qu'il y aura un homme riche, mais c'est quoi qui est riche aujourd'hui au point de vue de Dieu? Je dis pas de chiffres, là, mais l'idée, c'est pour nous, être riche, des fois, on pense, c'est quand tu as des millions à la banque. Pas du tout. Déjà, si on a le vêtement, la nourriture, le toit, puis on a le ventre bien plein, puis on a du linge sur le dos, on est considéré des gens riches comparativement à des vrais gens pauvres dans d'autres pays qui ont même pas de quoi à boire, ni à manger, ni à de quoi à se mettre sur le dos. Ils se promènent avec un morceau de guenille là, pour se cacher en avant. C'est tout ce qu'ils ont. Puis ils ont des trous d'eau, il faut qu'ils marchent des kilomètres pour aller chercher un trou d'eau. Pour aller boire d'un trou d'eau qui est l'eau est sale, puis est corrompue, puis il y a plein de bactéries là-dedans. Ça, c'est de la pauvreté. Des gens qui sont comme les mendiants à Montréal. Je ne parle pas de ceux qui collectent, qui vendent de la drogue, puis qui ont de l'argent dans les poches, parce qu'il y en a que c'est ça. Mais du monde vraiment pauvre, là, qui n'ont rien à manger, il y en a partout. Ceux qui ramassent pour leur confort, que ça dit, il dit, repose-toi, mange, bois et te réjouis parce que j'ai de l'abondance pour bien des années. Pensant qu'à lui. Là, Jésus continue à expliquer dans sa parabole, mais Dieu lui dit à celui qui se pensait bien correct à cause qu'il avait tout accumulé, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Il était pour mourir cette nuit-là, ce gars-là. Il pensait d'avoir de l'abondance pour bien des années, puis il va mourir cette nuit-là, puis tout ce qu'il a ramassé lui servira à rien. Il dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée, puisque tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Toutes tes richesses vont rester ici. Peut-être encore ta femme va en collecter, tes enfants. Qu'est-ce que tes enfants vont faire avec ce que tu as? Tu peux avoir des enfants qui vont tous friper dans les foleries, puis que là, tes efforts de toute ta vie sont envolés. Tu n'en as pas profité parce que tu es mort, puis tu n'as rien emporté, puis tout est resté pour ta descendance, qu'eux autres peut-être vont te friper ça dans, comme cela. Il dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jean-Claude va accueillir la personne dehors. Il en est ainsi, il dit, il n'est pas riche pour Dieu. Quand tes richesses restent ici quand tu meurs, tout ça, c'est perdu, ça t'a donné zéro richesse au point de vue de Dieu. Le Seigneur nous incite à nous ramasser des trésors dans les cieux. Ça dépend pas de notre argent. Ah non, c'est en dépensant pas notre argent. Parce qu'on peut être dépendant de notre argent et dire, « Oh, c'est ma sécurité, j'en ai besoin pour... » Dieu, il ne veut pas qu'on dépense tout ce qu'on a pour les biens terrestres. Il veut qu'on pense au royaume de Dieu. Il veut qu'on pense à se ramasser des richesses. On l'a chanté tantôt, il y a une ville où ce que la gloire de Dieu va être là, puis je vais vivre tu sais, dans l'abondance, je vais être heureux, puis je vais être béni. Oui, c'est vrai qu'un jour on s'en va là. La bénédiction est à la fin, mais notre richesse ou notre pauvreté, l'autre bord, va dépendre de ce qu'on fait ici. Il ne veut pas qu'on dépense tout notre argent que pour les biens terrestres. Dans Matthieu 6, 19, il dit, Jésus qui parle encore, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Où la teigne et la rouille ne détruisent point, puis où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus veut nous amener à focusser sur en haut. On a tout un budget ici au Québec, un budget pour arriver. Qu'est-ce qu'on fait avec? On pense-tu au royaume de Dieu, puis vouloir s'accumuler des richesses l'autre bord? Jésus nous dit de le faire. On ne pourra pas dire, « Oh, je ne le savais pas. » Jésus nous incite à dire, « Gaspillez pas tout votre argent pour les choses terrestres. Investissez pour le royaume de Dieu. » Vous avez le droit de dire « Amen ». Dans l'ancienne alliance, là, Dieu nous avait enseigné avec les biens qu'on a. Il nous avait enseigné quelque chose. Dieu avait déclaré que la dîme de tous les revenus lui appartenait. C'était une obligation pour le peuple juif de donner 10% de tous leurs revenus. Dans Lévitique 27:30, ça dit, « Toute dîme de la terre, soit les récoltes de la terre, soit les fruits des arbres, ça l'appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Dieu avait fait un commandement, c'était un ordre qu'il avait donné dans la loi de Moïse, dans l'alliance que Dieu a faite. Il a dit qu'un dixième de tout ce qui pousse appartient à Dieu. Il a dit aussi dans un autre verset, deux versets plus loin, il dit « Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, là, c'est qui est géré par les humains, puis ils se font élever, là, tout ça, pour la reproduction, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ça veut dire, là, les gens vivaient soit qui étaient bergers ou qui étaient cultivateurs. Ils élevaient des animaux ou ils cultivaient le terrain, puis là, Dieu, il dit, tout ce qui pousse ou tout ce qui s'élève, comme dans vos élevages, il y a une dîme. Il y a un dixième de tout ce que vous avez appartient à Dieu. Ça doit être consacré à l'Éternel. Ça veut dire que les gens, quand ils travaillaient, leur salaire, leur récolte, c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, ça dit, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, qui est même de la dîme des épices. Un dixième, la dîme veut dire un dixième. C'est dans la loi de Dieu, c'est une obligation, comme si Dieu dit, c'est ma part à moi, c'est un dixième-là. En plus de ça, en plus de donner un dixième de leurs ressources, ils devaient aussi donner des dons, faire des sacrifices puis des offrandes volontaires. On voit ça dans Lévitique 23, verset 38. Il dit, « Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, puis les sacrifices pour les péchés, et toutes vos offrandes volontaires. » Là, on parle d'offrandes volontaires, ce qu'ils ont décidé volontairement de donner. On ne parle pas de ce qui est un dû à l'Éternel. Ça veut dire, il donnait plus que 10%. Puis dans la parole, dans l'Ancienne Alliance, c'est une obligation que les gens étaient obligés de le faire. Puis Dieu regardait comment est-ce que les gens donnaient. Dieu regardait ce que les gens donnaient, puis il a rappelé à tout le peuple que s'ils voulaient être bénis, ils devaient être fidèles à Dieu dans leur offrande. Parce que c'était possible qu'on ne soit pas fidèle avec ce qui doit revenir à l'Éternel dans la loi. Dans Malachie 3, verset 8, ça dit, c'est Dieu qui est en train de parler, il dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? » Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Là, il répond, dans les dîmes et les offrandes. On voit encore l'idée dîmes et offrandes. Là, Dieu continue en disant, vous êtes frappés par la malédiction. On voit que les gens, là, étaient pas bénis, là. Le peuple t'a pas béni. Le peuple, il était même maudit. Dieu envoyait des plaies, il envoyait des conséquences du fait que les gens n'étaient pas fidèles à donner ce qui devait revenir à l'Éternel. Puis là, il dit, vous êtes sa malédiction, puis vous me trompez la nation tout entière. Là, c'était rendu le peuple au complet qui était pas fidèle à ce qu'il devait donner à Dieu. Il y a même une période, là, que les sacrificateurs puis les Lévites, ça nous dit qu'eux autres devaient vivre de ce qu'il était donné au temple. Ils prenaient ce qui était offert en sacrifice, après ça, il faisait cuire pour se nourrir. Ça nourrissait les sacrificateurs et les Lévites, puis ça nous parle dans la parole, dans l'Ancien, qu'il n'y avait rien à manger. Le peuple, il n'amenait pas les offrandes qui étaient supposées, puis là, les sacrificateurs et les Lévites, ils n'étaient plus capables de vivre normalement, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Parce que le peuple n'amena pas leurs dîmes et leurs offrandes. Le but des dîmes et l'offrande, c'est pour les offrir à Dieu, consacrer ça à Dieu, puis là, ceux qui servent Dieu dans le temple, les sacrificateurs puis les Lévites, ils mangeaient de ce qui était apporté. Puis là, Dieu, il continue à parler, il dit, toute la nation entière trompe Dieu, puis sont sous une malédiction, puis ils sont pas fidèles. Puis là, Dieu, il fait une promesse, là. Il est en train de les mettre au défi, au verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Comme je vous disais, la nourriture, c'est pas pour nourrir Dieu, c'est pour nourrir les sacrificateurs puis les Lévites. Apportez toutes les dîmes, puis pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, puis vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, puis si je répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous savez que les écrits de l'Ancienne Alliance, ça nous sert comme instruction. C'est là pour nous donner comme des idées comment Dieu pense puis comment Dieu fonctionne. Comment est-ce que ces promesses qui étaient là comptent encore aujourd'hui. Que si tu es fidèle dans ce que Dieu t'a demandé, Dieu va te bénir. Puis si tu es infidèle avec ce que Dieu demande, tu peux tomber sur des malédictions. Je dis pas que les chrétiens vont être maudits par le salut à cause qu'ils sont pas fidèles dans ce côté-là, mais ils auront pas la bénédiction que Dieu voulait leur donner. Aujourd'hui, on se dit qu'on n'est plus sous la loi, puis que maintenant, je me permets de donner peu. Parce que on dit qu'on est sous la grâce. On pense que, comme il y a des versets qui disent, de donner ce qu'on a résolu dans notre cœur, puis on donne peu. On garde tout, puis Jésus l'a dit, « Amassez-vous des trésors dans les cieux. » Puis là, vu qu'on se sent moins obligé parce qu'on n'est plus sous l'Ancienne Alliance, l'Ancienne Alliance est obligé d'avoir des dîmes plus les offrandes, puis que là, aujourd'hui, on ne se sent pas selon la loi, puis qu'on pense que Dieu... Il n'en tient pas compte, vu qu'on n'est plus sous la loi. Pensez-vous que Dieu ne voit pas et n'analyse pas ce que l'on donne aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? En étant sous la Nouvelle Alliance, Dieu continue à regarder comment est-ce qu'on est généreux, comment est-ce qu'on est fidèle dans ce qu'il nous demande, puis il tient compte de cela aussi pour bénir ses serviteurs et ses servantes. Dieu regarde encore si nous sommes généreux ou gratteux. Tiens, amen là-dessus. Dans Galates 6:6, ça nous dit que celui à qui on enseigne la parole, ça c'est qui ça? C'est ceux qui sont assis dans une église à quelque part. À celui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est qui? C'est celui qui enseigne, c'est le pasteur dans une église, ou les pasteurs. Selon ce verset-là, puis là, je vous le dis, je prêche pas pour moi, parce que moi, je ne charge rien. Je ne collecte rien. Tout ce qu'on donne, on le donne dans le tronc, ça reste pour les choses d'évangélisation, nos activités. Moi, je ne charge rien, puis je n'ai pas l'intention de charger quoi que ce soit pour ce que je fais. C'est du bénévole, 100%. Puis je donne ma part aussi. Mais le point là-dedans, c'est quand même un principe biblique que chaque chrétien fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Ça veut dire... Dieu veut encore que, ça c'est dans le Nouveau Testament, veut encore que les chrétiens donnent, dans ce temps-là, il apportait ça aux pieds des apôtres, mais il amenait ça aussi, avant ça, c'était amené au temple, puis ça servait pour payer les réparations du temple, puis payer la nourriture pour les sacrificateurs, puis tout ça. Là, il dit, faut continuer à faire une part. Le mot part que là, c'est devenir membre, de partager, d'être partenaire, d'entrer en association, mais c'est de joindre comme un associé, tu deviens un participant ou un partenaire de ce qui est en train d'être fait, dans le mot « faire part ». Dieu veut que chacun des chrétiens devienne participant pour faire avancer le royaume de Dieu dans où ce qui nous a établi, en donnant la part qu'il faut dans votre participation. Là, il ajoute, au verset 7, puis ça, comme je vous disais, est-ce que Dieu regarde combien ce qu'on donne aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Il dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire que si tu es un gratteux, Dieu va être gratteux envers toi. Puis si tu es un généreux, Dieu va être généreux avec toi. Il dit, un homme va récolter, il va moissonner selon ce qu'il a donné. Il dit, puis là, au verset 8, ça revient encore à ce qu'on a vu dans les autres idées. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, parce que ceux qui abandonnent le chemin du Seigneur, ils moissonneront pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Est-ce qu'on comprend là-dedans que c'est important de donner pour que les frères dans la foi puissent être bénis et aussi pour que fassent part de vos biens pour l'œuvre de Dieu, pour que ça puisse servir pour l'œuvre? Puis il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura fait, là, il va récolter selon ce qu'il a semé. Tu veux plaire à Dieu? Donne généreusement, car Dieu prend plaisir à la générosité. Dans Hébreux 13, 16, on l'a vu tantôt au début de la réunion. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir quand ses enfants sont généreux envers les autres. Ça veut dire que Dieu, même dans le Nouveau Testament, tient compte de notre générosité, tient compte combien ce qu'on donne dans l'œuvre. Souvent, nous basons nos dons en disant, « Je donne comme je l'ai résolu en mon cœur. J'ai décidé de donner 5$ par mois. » C'est vrai que c'est écrit « donner selon son cœur ». Dans 2 Corinthiens 9, 7, ça dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Puis là, il dit de donner ce qu'on a résolu, ce qu'on a décidé, sans se sentir triste, sans se sentir forcé. Dieu ne force personne. Il veut qu'on fasse les choses par amour. Il veut qu'on fasse les choses parce qu'on veut être généreux, pas parce qu'on sent, oh non, je suis obligé de donner. Tu as résolu des montants, donne-les sans être triste, puis donne-les avec joie. Puis ça, là, ça fait plaisir au Seigneur quand on est comme cela. Là, vous sentez-vous soulagé pour le montant? Mais il faut pas oublier ce qui est écrit le verset avant, celui-là qu'on vient de lire. 2 Corinthiens 9, 6, il dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Oui, je donne ce que j'ai résolu dans mon cœur. » Avec joie, sans tristesse, me sens pas forcé. Mais oublie pas, faut pas que j'oublie, que si je donne peu, je vais moissonner peu. Dieu regarde pas la grosseur du chiffre, il regarde ce que ça te coûte que tu donnes. Y a-t-il une privation quelque part? Parce que Jésus a regardé les gens qui donnaient dans le tronc, les riches me mettaient de l'argent. Là, le monde devait se penser bien généreux, il y a mes 20. L'autre, la pauvre veuve, est arrivée et a mis un quart de sous. Même pas une scène noire complète. Juste l'un quart. Je ne sais pas si elle l'a coupé en quatre. Elle en a donné un bout. Puis Jésus a dit qu'elle, elle va donner plus que toutes les autres. Parce qu'elle, les autres donnaient le superflu. Ça ne lui coûtait rien. Ils n'ont fait aucun effort pour donner. Puis il y en avait encore dans leur poche. Ils sont privés sur rien, tandis qu'elle a donné ce qui était nécessaire pour sa survie. Il restait juste ça, tout ce qu'elle avait pour vivre, que ça dit dans le texte. Ça, Jésus a dit qu'elle a donné plus. Jésus ne regarde pas le montant que vous donnez, il regarde si ça vous coûte quelque chose. C'est le même qui évalue le sacrifice d'avoir donné avec joie, sans sentir forcé, mais de donner. Plus que si tu sèmes peu, c'est pas un face à l'autre, l'autre donne 20, je vais donner 22 puis je suis correct. Non. Parce que si je gagne 4 fois son montant, lui, par semaine, c'est pas rien que 22 qui dit « je donne plus ». Ben oui, tu donnes plus, mais lui, il s'est sacrifié pour donner 20$. Toi, t'en donnes 22 pour satisfaire ta conscience. Mais en réalité, Dieu va considérer que t'as semé peu face au montant que t'avais eu. J'ai-tu un « ouch » à quelque part? C'est ce que je vous dis là, c'est la vérité. Si je voudrais tout vous flatter, je vous dirais donner rien. Donner 2$. Moi, je vous dis, Dieu regarde combien vous donnez. On n'aura pas de local à 2$, c'est sûr. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Est-ce qu'on veut être riche l'autre bord? N'oubliez pas, là, quand Jésus dit se ramasser des trésors dans les cieux, non seulement il n'y a pas de voleur, puis il n'y a pas de rouille, mais en plus de ça, on va le garder pour l'éternité, notre richesse. Ici, notre vie terrestre, là, elle dure 80, 90, 100, en top, là. Puis notre richesse reste là si on n'est pas servi pour l'œuvre de Dieu. Mais même qu'on arrive l'autre bord, on rentre dans nos richesses qu'on a, selon ce qu'on a été généreux ou pas, ceux-là vont durer éternellement. Ça vaut-tu l'investissement, d'après vous? Dieu nous dit qu'il voit, puis il se rappelle, puis il remettra. Il remettra chacun selon ses œuvres. Comme c'est arrivé dans le... On en a parlé l'autre jour dans la réunion de prière, dans Acte 10-4, qu'il y a une personne qui est exaucée parce que Dieu s'est souvenu de ses dons puis de ses prières. Comment il s'appelle? Corneille. Dans Acte 10-4, là, il y a un ange qui apparaît à Corneille qui est un païen. Puis il aimait Dieu, puis il priait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Puis ce païen-là, qui aimait Dieu, puis il priait Dieu, puis il faisait des aumônes au peuple, c'est un gars pieux, c'est un gars qui cherchait Dieu dans sa vie. Dieu lui a envoyé un ange pour lui parler du plan du salut. Il a dit, tu vas aller chercher Pierre, puis il va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Puis là, il dit, l'ange, il a dit, quand il a vu l'ange, il a regardé avec effroi, puis il a dit, qu'est-ce Seigneur? Puis l'ange lui dit, tes prières puis tes dons que tu as faites aux pauvres sont montés devant Dieu puis s'en est souvenu. Chaque fois qu'on donne, chaque fois qu'on prie, mais chaque fois qu'on donne dans l'œuvre de Dieu, Dieu ne l'oublie pas. Chaque fois. Puis il dit ça, ça reste devant ses yeux. Puis Dieu fait pas d'Alzheimer. Quand il dit qu'il va remettre à chacun, selon, puis Dieu il est juste. Il fera pas de passe-droit pour rendre quelqu'un riche, quelqu'un qui a pas voulu envoyer de matériaux l'autre bord. Nous pouvons donner des honneurs à Dieu avec nos biens. Oui, on peut donner des honneurs à Dieu par notre bouche. Alléluia, tu es grand, tu es merveilleux, tu es tout-puissant. Ça, c'est des honneurs avec notre bouche. Mais tu peux aussi donner des honneurs à Dieu avec tes biens. Alors même, il nous promet de nous bénir financièrement avec ça. Dans Proverbes 3:9, ça dit, « Honore l'Éternel avec tes biens. Rends des honneurs à l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. » Les prémices, c'est la première part en se disant, « Tu reçois ta paye, la première part, tu la consacres à Dieu. » Il y a une partie, là. Faire part de tes biens à celui qui enseigne, il y a une part, là. Un prémisse, c'est la première part. On se dit ça, ça appartient à Dieu. Puis on reste fidèle à ce qu'on a promis de donner à Dieu. On peut même y demander s'il veut qu'on augmente le chiffre de temps en temps. Parce que notre salaire augmente, puis on donne un montant, puis c'est pas raisonnable face à ce qu'on gagne. Moi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je force pas personne. Je fais juste vous enseigner à observer ce qui est écrit. Je vous le dis. Chacun va récolter comme qui a été fidèle devant Dieu, puis Dieu remarque tout. Puis là, il dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Du mou, là, c'est quand tu fais une barge de vin ou une barge de bière. Ça a le rapport avec la fermentation, puis le vin, ça, c'est pour ça a rapport à la réjouissance dans la vie. Dieu va nous bénir, tes greniers vont être pleins si t'es fidèle, avec, si t'honores Dieu avec tes revenus. Le premier grenier qui vont être remplis, là, c'est nos greniers célestes. Quand on va arriver à l'autre bord. Oui, il va te bénir aussi financièrement, ici, mais c'est l'autre bord qui est l'abondance. Tu en ramasses du au centuple. Parce qu'il l'a dit, quiconque aura perdu à cause de moi, père, mère, frère, sœur, femme, enfant, terre, maison, recevra le centuple, puis héritera la vie éternelle. Dieu promet le centuple dans nos pertes. C'est pas juste perdre à cause que tu perds un job. C'est qu'est-ce que tu donnes, ce que tu sacrifies, ce que tu donnes au Seigneur. Il regarde tout, puis il comptabilise tout, puis Dieu est fidèle. Les premiers greniers que je vous dis qu'on va remplir, il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Dans Luc 12, 33, il dit, vendez ce que vous possédez, donnez-le en au monde, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Dans Proverbe 19, 17, ça nous dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Tu vois un pauvre, puis tu l'aides, là. Tu es en train de faire un prêt à l'Éternel, parce que l'Éternel va te le remettre. Il va te bénir. C'est pas une idée de dire de la prospérité comme qu'on pense, là. La théorie de la prospérité, c'est tu donnes un montant, puis tu vas absolument recevoir dans ce monde 100 fois plus. C'est pas ça là, que je dis. Dieu bénit, puis bénit comme qu'il veut. Mais il y a une garantie de bénir dans les cieux. Amen. Sur terre, il va toujours pourvoir à nos besoins. Puis il va nous qu'on ait en plus over pour être capable d'aider les autres. C'est ça ce que ça nous dit dans le prochain verset. Le but aussi, c'est pas de se mettre dans le trouble en donnant ce qu'on n'a pas pour soulager les autres. Parce que si tu ne l'as pas vraiment, l'argent va pas donner quand tu t'endettes pour donner, là, ça marche pas, ça, là. Dans 2 Corinthiens 8, 12, ça dit, la bonne volonté, là, de dire que tu veux donner, là, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Si tu n'as pas d'argent, engage-toi pas à donner ce que tu n'as pas. Parce qu'il explique, il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais pour suivre une règle d'égalité. C'est ça qui est l'idée. Quand tu as over, puis l'autre a moins, tu vas donner à celui qui a moins, puis que lui, on soit égal. Mais si tu n'as pas, pense pas à vouloir donner aux autres, parce que là, tu vas souffrir de la faim ou tu seras pas capable de payer tes billes. Puis là, il dit, dans la circonstance présente, parce que là, c'était le temps de faire un don pour aider les pauvres à Jérusalem, il dit, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin qu'à un autre moment, leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Fait que quand c'est le temps de donner pour l'œuvre en général, tu donnes selon ce que tu as. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais considère à mettre la part au Seigneur. Pour son royaume. Dieu voit, puis ça coûte quelque chose des fois. Comme j'ai expliqué, la veuve a donné un quart de sou, a donné ce qu'elle avait pour vivre. Ça peut arriver que tu vas en donner plus que ce que tu es capable pour le. Mais en général, quand tu donnes pour soulager les autres, donne ce que tu as déjà dans ta disposition. Parce qu'il y en a qui disent, moi, si je gagne le million, je vais donner 100 000 pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne demande pas non plus de penser de même pour te dire, si tu gagnes, tu vas te donner. Non. Commence par donner déjà avec ce que tu as. De donner selon tes revenus. Puis je finis avec un dernier verset. Dieu veut que vous soyez porteurs de plus de fruits. C'est ça qui arrive au bout de la ligne quand on est fidèle financièrement. dans 2 Corinthiens 9, 10, il dit « Celui qui fournit de la semence au semeur, c'est Dieu. » C'est lui qui donne, qui permet qu'on ait de la semence pour pouvoir semer. C'est lui qui a permis qu'on ait ce job-là, mettons, qui nous rapporte ça. C'est lui qui permet. Il dit, c'est lui qui donne du pain pour sa nourriture. Il vous fournira, il vous multipliera la semence, puis il augmentera les fruits de votre justice. Parce que il va t'en donner plus. Puis tu vas pouvoir toi-même en donner plus, ce qui fait que ça va augmenter les fruits de ta justice. C'est le plan de Dieu, frères et sœurs. Apprenons à être généreux. Apprenons à faire passer l'œuvre de Dieu, un prémisse là, de tes revenus. Il y a une part qui est fixée devant Dieu en priant, en demandant. Tu lui donnes ça fidèlement, sans être triste. Tu donnes avec joie. Tu donnes en mettant ça devant Dieu, puis tu restes fidèle à ce que tu t'es engagé. Dieu voit, puis Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations. Continue à graver ces choses dans notre cœur et fais de nous des personnes généreuses. Guide-nous, conduis-nous dans cela pour qu'on pense pas qu'aux choses de la terre, qu'on pense pas pour notre propre ventre, mais qu'on pense plutôt à te bénir et à bénir ton œuvre, Seigneur. À pourvoir, est-ce qu'on soit des pourvoyeurs pour l'avancement de ton œuvre? Seigneur, je te demande de graver ces choses dans nos cœurs puis de nous donner d'être fidèles. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. On s'en remet à toi, puis on prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.